retour sur la saison 2020 de l'Impact de Montréal. Et surtout, honnêtement, je vais vous avouer une chose, j'ai apprécié chaque performance de l'équipe dans le tournoi, évidemment, des éliminatoires contre la Révolution de la Nouvelle-Angleterre. On a quand même vu une équipe qui s'est battue. Encore récemment, en début de semaine, une victoire, bon, passé de but pour avancer davantage dans le tournoi. Mais je pense, je ne sais pas si c'était l'état d'esprit des dirigeants. Moi, c'était le mien comme spectateur et observateur intéressé. C'est de regarder tout ce qu'on est en train de développer pour la saison prochaine et les saisons suivantes. Alors, sans plus tarder, recevons notre invité, nul autre que le directeur sportif de l'Impact de Montréal, Olivier Renard. Bonsoir Olivier, comment allez-vous?
Bonsoir, je vais très bien, merci.
Alors, un bilan, c'est quoi le bilan pour vous, là, en gros? Là, je ne sais pas jusqu'à quel point vous aviez davantage la tête à 2021 sans négliger 2020, mais qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce bilan d'une année un peu exceptionnelle? C'est le moins qu'on puisse dire.
Non, mais c'est vrai que dire un bilan par rapport à la saison qui a été compliquée à plusieurs niveaux, et pas seulement pour l'Impact de Montréal, évidemment, je parle du monde entier. Donc, on a essayé de gérer au maximum. Ça a été plus une saison psychologique que footballistique. Et à la fin, comme je viens de l'entendre, ben, c'est vrai que la fin de la saison, moi, ce que j'ai été très content quand même de voir, c'est l'enthousiasme qu'il y a eu de la part des joueurs après les 14 jours de nouveau enfermés à la maison et d'essayer de se qualifier face à Olympia. Donc, c'était vraiment un match où pas beaucoup de joueurs, il y a encore un mois d'ici, voulaient participer. Pour finir, j'ai vu une équipe de... Je peux utiliser même le mot des guerriers. C'est vrai qu'on aurait pu se qualifier, faire mieux. On peut toujours faire mieux. Mais quand même, j'ai vu une équipe très motivée et ça, c'est de bon augure par rapport à 2021.
Il y a tellement eu de négatifs, là. On n'a pas besoin de chercher bien, bien longtemps en 2020. Là, je ne parle pas de votre équipe. Là, je parle de la situation générale que j'ai envie de vous demander, Olivier. Là, pour vous, à travers ce qu'on voit, mais à travers ce qu'on ne voit pas, le tangible et l'intangible, quand on est directeur sportif, là, on a ce regard-là privilégié sur ce qu'on est en train de bâtir. Qu'est-ce qui, pour vous, est l'élément le plus stimulant, encourageant, prometteur dans ce que vous avez fait en 2020 qui va aboutir ou qui va commencer à aboutir en 2021?
Mais c'est exactement ce que je viens de dire aussi avec la prestation du dernier match, parce qu'il manquait plusieurs joueurs, je vais dire, d'expérience, soi-disant des leaders, et qui avaient décidé de ne pas venir, parce que c'est vrai que la Ligue avait donné le OK à les joueurs n'ayant pas de contrat pour 2021, ils n'étaient pas obligés de se présenter, c'est ce qu'ils ont fait, et c'est leur droit, donc il n'y a pas de problème avec cela. Mais nous sommes présentés là-bas avec une équipe très très jeune, et quatre nouveaux jeunes de l'Académie, dont le jeune Jean Agnel qui est rentré et qui a battu le record, je pense, du plus jeune joueur pour rentrer pour l'Impact de Montréal. Et surtout, ce que j'ai vu, c'est l'envie d'aller vers l'avant, de se battre jusqu'à la dernière minute et on aurait pu se qualifier. On ne l'a pas fait, mais ça, c'est ce que j'ai envie de tirer comme enseignement par rapport à la saison 2021. Une équipe jeune, motivée et qui va rien lâcher. Et évidemment, c'est mon rôle de maintenant apporter plus de qualité dans l'équipe. Et après, ça sera le rôle du staff et de Thierry Henry de les faire progresser.
J'imagine qu'il y a toujours un potentiel piège quand on analyse des performances sur un match, mais il reste que c'est un match où la performance de l'équipe, une victoire de 1-0, pourrait valider beaucoup d'éléments d'évaluation. En même temps, vous êtes-vous demandé, considérant que c'est une victoire avec un jeune de 16 ans qui enfile l'uniforme et qui joue, est-ce que vous vous êtes dit, coudon, est-ce que CD Olympia a joué sur les talons, a joué à reculons, sans déprécier la performance de notre équipe, là? Mais je veux dire, quand on essaie de donner la juste valeur à l'évaluation qu'on fait d'un match, j'imagine que c'est une question qu'on se pose aussi.
Bien sûr, mais c'est très difficile. Moi, ce que je viens de dire par rapport à la satisfaction du match ne résume pas toute la saison. On a fait des mauvais matchs aussi et des choses qui doivent absolument s'améliorer. Mais c'est dans ce style-là que nous voulons aller de l'avant. Et par rapport à Olympia, y a plusieurs collègues à vous, j'ai entendu quand même avec l'expression un peu, qui je pense c'est une expression québécoise, de dire que l'Impact allait se faire laver au match, parce que c'est vrai que l'Olympia, je pense qu'ils avaient aligné 8 victoires d'affilée avant ce match-ci.
Oui.
Mais pour finir, on les a battus et après la victoire, on me dit que l'équipe d'Olympia, pour finir, n'était pas si forte que ça. Donc ça c'est le football. Nous, on ne doit pas regarder cela. La seule chose qui est vraie, c'est qu'on est éliminé. Donc on a battu Olympia, mais ça n'a pas suffi.
Oui.
Mais voilà, dans le football, effectivement, il y a plein de paramètres. Et on l'a bien connu au match aller du mois de mars. Donc ça remonte il y a très longtemps, le match aller face à Olympia, avec cette histoire de pénalty sifflé et puis annulé. Mais ce sont ces détails-là qui font la différence dans le football. Une carte rouge, un pénalty sifflé qui est annulé, pas de VAR aussi dans la CONCACAF, ce qui est différent du championnat MLS. Donc voilà, ce sont toutes des caractéristiques qu'il faut accepter. Un arbitrage parfois limite aussi au niveau de la CONCACAF, mais voilà, ça on m'avait prévenu déjà. Moi, c'est la première fois que je faisais la Champions League CONCACAF. J'ai fait la Champions League et j'ai joué aussi la Ligue des Champions du côté européen, mais c'est vrai qu'ici, c'est un petit peu plus particulier.
C'est quoi la plus grosse différence par rapport, juste une petite parenthèse que j'ai envie d'ouvrir, parce que on regardait par exemple un jeune défenseur comme Louis Bings, qui est très, très physique, puis j'entendais des analystes qui connaissaient encore plus que, et beaucoup plus que moi, là, nos spécialistes, des Vendredi et compagnie, qui disaient qu'en Angleterre, il n'y aurait jamais eu un carton, puis ici, le carton levé à tout bout de champ. C'est quoi l'élément le plus difficile auquel s'ajuster pour quelqu'un qui a vécu le foot à l'extérieur de l'Amérique quand on est en contact avec la MLS?
Ben, je pense que c'est pas seulement la MLS, c'est chaque championnat, il y a des spécificités dans chaque championnat, et c'est vrai que Louis Binks, en fait, quand on dit que Louis Binks, il est rude, il est dur dans le duel, je pense que c'est plus par rapport à sa nationalité anglaise, parce que c'est justement parfois un de ses points faibles, et parfois, évidemment, il donne des coups de frustration, et c'est là qu'il doit encore grandir, et c'est pour ça que son apprentissage ici, à Montréal, est encore important à faire, il y a encore une marge de progression. Donc c'est vrai que parfois il donne des coups, il veut se faire entendre et il fait des réactions d'impulsion, mais c'est pas forcément un défenseur rude à part entière. Il y a des défenseurs plus rudes que ça. Dans le championnat d'MLS, on siffle assez facilement, c'est vrai aussi. Et quand on joue la CONCACAF, ben là on tombe comme des équipes contre Costa Rica ou Honduras, où là il y a vraiment parfois des fautes flagrantes qui ne sont pas sifflées. Et il faut savoir s'adapter.
En conversation avec Olivier Renard, directeur sportif de l'Impact de Montréal, regardons en avant. On a eu le plaisir de s'entretenir avec votre président hier, Kevin Gilmour. Il a été question de Thierry Henry. Puis on en a discuté ensemble, d'ailleurs, lors de notre dernier entretien. Olivier, là, Thierry, qui n'avait pas vu sa famille, je crois, depuis tout près d'un an. Et comme la pandémie n'est pas finie, malgré la campagne de vaccination qui va s'étendre et qui va nous permettre de progresser comme société, Kevin nous assurait que Thierry veut, puis je le sens, j'en ai jamais douté, là, mais je voulais vous en parler à vous aussi. Donc, Thierry revient en 2021. Il y a pas de est-ce qu'il y a de la possible ambiguïté par rapport à ça?
Non, pas du tout. Et très honnêtement, j'ai même pas entendu cette rumeur-là avant, parce que c'est vrai que, mais comme je l'ai déjà dit aussi à un de vos collègues, quand l'Impact de Montréal choisit de prendre Thierry Henry comme entraîneur, il faut aussi accepter le fait d'avoir des rumeurs qui peuvent jaillir à n'importe quel moment, parce que c'est Thierry vrai. Est une personnalité. Thierry peut donner envie à certains autres clubs, et ça, il faut savoir vivre avec. Mais l'important, c'est que moi, je le vois bien, ayant Thierry plusieurs fois au téléphone par jour, puisqu'on est de nouveau en quarantaine, ben, on travaille ensemble sur le projet 2021, donc il y a pas du tout l'ombre d'un doute par rapport à l'année prochaine.
Et il nous l'avait dit lui-même qu'il resterait à vie. On lui en demandait pas tant, là, mais bref, qu'on sentait son engagement dans ce projet-là. Je sais pas jusqu'à quel point, Olivier, vous et Thierry, vous connaissiez bien avant de travailler ensemble. Et si vous ne connaissiez pas tant que ça, quel est l'élément qui vous procure le plus d'enthousiasme par rapport à ce que vous découvrez de l'engagement puis de la personnalité de Thierry Henry?
Ben, la première fois que nous nous sommes rencontrés, ça remonte quand même à très longtemps, c'est-à-dire en 97, à la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Malaisie. Donc lui, il était là avec la France et moi avec la Belgique. Et on était dans le même hôtel, donc on nous sommes rencontrés là, on a joué nous deux fois l'un contre l'autre. Mais c'était pas devenu un ami, c'était simplement quelqu'un qu'on nous nous connaissons parce qu'on se croisait sur le terrain. Après, à partir du moment où Thierry est devenu troisième entraîneur donc de l'équipe nationale belge. Évidemment, moi, j'ai joué en équipe nationale belge et j'ai encore beaucoup d'amis qui jouent encore actuellement dedans. Donc, j'avais assez facilement leurs impressions par rapport à Thierry sur sa personnalité en tant qu'entraîneur. Parce que le joueur de football, je pense que tout le monde connaît Thierry Henry. Mais là, on parle plus du joueur de football, on parle du coach Thierry Henry. Et la plupart des gens avec qui j'ai parlé ont tous été positifs. Et après, au niveau de sa fiche de coach, c'est-à-dire qu'il est passé par tous les échelons. Donc, il a commencé par l'Académie d'Arsenal pour après transiter par ce que je viens de dire, l'équipe nationale belge comme troisième coach. Et puis, il s'est lancé comme coach principal à Monaco. Là, ça s'est moins bien passé, mais qui n'est pas forcément une mauvaise chose parce que
On apprend là-dedans.
Ben oui, et en plus, il ne serait pas ici non plus. Donc, il faut bien se dire ça aussi. S'il avait bien réussi, ben bon, évidemment, je lui souhaite le meilleur, c'est pas ça, mais pour lui, je crois que ça a été une gifle et tout cela, mais je crois que le premier point qui m'intéresse, c'est le fait d'être passé par l'Académie d'Arsenal, c'est-à-dire quelqu'un qui a voulu apprendre avec des jeunes. C'est pas parce que tu as été un des meilleurs joueurs du monde que tu connais tout le paradoxe d'être coach. Il faut l'apprendre. Être coach, tu ne deviens pas coach du jour au lendemain. Et donc, travailler avec des jeunes, comme nous voulons le faire ici avec l'Impact de Montréal. Et donc, il a passé tous les échelons de l'apprentissage, et c'est ça qui m'a poussé à le rencontrer. On en a discuté à Londres, et puis il a accepté le projet.
Olivier, vous, dans tout ce que vous avez pu constater depuis votre entrée en scène comme directeur sportif chez l'Impact de Montréal, est-ce qu'il y a un ajustement, est-ce qu'il y a un défi que vous n'aviez pas vu? Je ne parle pas de la pandémie, là, parce que ça, évidemment, qu'il y en a eu plusieurs défis. Je parle par rapport à bâtir un beau projet, bâtir une belle équipe. Y a-t-il une réalité à laquelle vous n'étiez pas prêt, que vous aviez sous-estimé? C'est une question un peu large, mais vous voyez où je veux en venir. Est-ce qu'il y a eu un ajustement que vous avez dû faire, par exemple?
Non, sous-estimé, non, parce que je savais très bien l'ampleur du projet, parce que être directeur sportif en Europe ou directeur sportif ici, c'est complètement différent, avec la masse salariale, les règles, la draft, les échanges de joueurs, tout ça, ça n'existe pas en Europe. Donc, je m'attendais à cela. Je suis même plus très satisfait, plus ou moins de ma compréhension, grâce à Vassili Kremazitis, qui m'aide beaucoup là-dessus depuis mon arrivée. C'est plutôt des surprises positives du club, parce que tout ce qui avait été prévu avec Kevin Gilmore, qui a vraiment insisté pour me prendre ici aussi, je vois que le club, c'est pas seulement la vision d'Olivier Renard et la ligne tracée, la direction tracée à essayer de redresser le club, qui suit ça, c'est tout le club, on s'est tous mis dans la même direction et on a des valeurs par rapport à ce qu'on a envie d'apporter au club. On a évidemment beaucoup de travail encore à faire, et c'est vrai que cette année de pandémie nous a pas aidé du tout. Mais j'en profite aussi dans cette interview pour remercier la famille Saputo de rester un maximum derrière le club et de garder. Moi, je n'ai pas eu à l'heure actuelle le message comme quoi le budget devait descendre pour la saison prochaine au niveau, et je ne l'aurai pas. Donc, je sais que la famille Saputo et le propriétaire Joey Saputo veut continuer à investir et c'est un bon signal pour tout le monde.
C'est vraiment une excellente nouvelle et vous faites bien de le souligner. Est-ce qu'il vous reste de la marge de manœuvre par rapport à l'effectif de 2021? Vous parlez de l'aspect budgétaire et en même temps dans un contexte où j'imagine tout le monde examine quand même très rigoureusement ses dépenses là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait de l'argent dans le monde du sport professionnel en 2020. Donc, est-ce qu'il vous reste une certaine marge de manœuvre pour bonifier cette jeune équipe?
Ben oui, mais c'est pour ça aussi que j'ai dû prendre des décisions, même quelques matchs avant la qualification ou la non-qualification de play-off, parce qu'on n'était pas encore sûr, bien sûr, avec la vente de Saphir Taider. Donc, quand ces dilemmes-là se posent devant vous, ben vous devez réfléchir aussi au long terme, parce que le projet que nous voulons faire, c'est pas du court terme, c'est du long terme, d'essayer de faire le meilleur résultat possible sur le long terme. Et le départ de Saphir nous fait récupérer de l'argent, d'économiser de l'argent aussi sur son salaire l'année prochaine, donc en 2021. Nous permet d'avoir quand même une marge. Après, c'est vrai qu'il y a encore quelques joueurs chez nous qui ont quand même des contrats assez lourds et qui sont toujours sous contrat, mais ça à nous à gérer. Et dès qu'il y a l'espace, on va essayer on doit faire venir des joueurs qui vont faire la différence. Après, je sais que tout le monde s'attend à ce fameux terme de joueur désigné, de joueur par excellence, de grands noms. Et je comprends. Moi aussi, j'aimerais bien apporter 5-6 grands noms. Mais le système MLS avec le salary cap ne donne pas forcément beaucoup de facilité pour faire cela. Donc, si on le fait, ça sera un grand nom. Et moi, personnellement, avec mes idées et ma confiance par rapport à la jeunesse, je préfère peut-être apporter 4-5 bons joueurs à mes yeux. Et c'est là que je vais en revenir, par exemple, à le joueur qui a été par excellence cette année-ci, c'est-à-dire Romel Kyoto, qui n'est pas, avec l'étiquette dans le dos de joueur désigné. Et pour finir, si on parle de Kyoto et de Binks, qui sont deux nouveaux joueurs qui sont arrivés en 2020, eh bien, ce ne sont pas des joueurs désignés. Donc, et si on pose la question à tous nos supporters, et même à vous les journalistes, je parle au niveau de qualité, mais 3-4 joueurs style Binks et 3-4 joueurs style Kyoto, je crois que tout le monde est content et la qualité de l'équipe va augmenter. Donc, et là, pourtant, je ne parle pas de joueurs désignés. Donc, je me répète, ça n'a rien à voir. Il y a moyen de trouver de très bons joueurs avec des salaires qui ne dépasse pas les 2-3 millions d'euros, de dollars, pardon.
Ben moi, mais je suis 100% d'accord avec ce que vous venez de dire, Olivier, puis je pense que c'est vrai dans plus d'un sport. Cependant, et entre la question de savoir, puis Joey Saputo l'avait déjà lui-même posé cette question-là, est-ce que je veux un joueur à 6 millions ou j'en veux 3 à 2 millions, exemple. C'est une autre façon de l'aborder. Pour avoir une équipe compétitive et qui gagne des matchs, je pense que vous êtes très, très bien aligné. Là, c'est quelque chose qui est difficile à remplacer, cependant, c'est l'attrait au guichet dans une situation hors pandémie où tu as des billets à vendre d'une grosse personnalité, comme on l'a vécu là, lors du passage de Drogba, un peu de Divayo. Puis je pense pas que vous seriez en désaccord avec ça. C'est sûr que c'est difficile de nier l'intérêt ou l'attrait au guichet d'une star du foot qui viendrait jouer à Montréal.
Non, mais c'est vrai que, et je ne dis pas que l'Impact de Montréal ne va pas le faire, hein, ça peut très bien se passer comme cela, être entouré de plusieurs jeunes à côté. Mais vous savez, quand on parle d'un joueur de 5-6 millions de dollars, ce même joueur, à un moment, il ne coûtait pas 5-6 millions de dollars. Donc l'idée, c'est d'aller chercher le joueur.
Je suis d'accord.
Quand il ne coûte pas 5-6 millions. Et toi-même, le former pour qu'il devienne un joueur à 5-6 millions de dollars dans un autre club s'il faut, parce que dans le football, c'est comme ça. Quelqu'un qui joue bien, ben, il a des intérêts d'autres clubs et d'autres ligues supérieures. Donc ça, ce sont mes idées qui sont devenues importantes, étaient des petits joueurs à la base aussi. Et si nous, on peut devenir un style de parking sur l'autoroute, une aire de repos, ils viennent chez nous, ils se développent et puis ils repartent. Mais moi, c'est ce que... Je sais que pour les supporters, c'est difficile à entendre ça parce que c'est un sport, le football, où quand un joueur performe bien, ben c'est très difficile de le retenir. Et le retenir est même une mauvaise idée parce que il va être déçu et pour finir, il va pas continuer ses prestations. Donc, l'important après, c'est de trouver le remplaçant qui va devenir le nouveau joueur X important du club. Et ça, c'est, j'ai déjà pris comme exemple Nacho Piatti quand on est arrivé ici. Il n'avait pas le nom de Didier Drogba. Et pour finir, le joueur plus important de l'Impact de Montréal, ça a été Nacho Piatti.
Tout à fait. Et il faut apprendre à vivre dans le présent également à travers tout ça. Un dernier élément avant de vous souhaiter de belles fêtes, Olivier Renard. Vous avez fait allusion au fait que le club manquait de personnalité. Je ne sais pas si je pourrais le traduire aussi par caractère. Est-ce que ça se développe, ça? Ça s'achète de façon sommaire?
Oui, ben je me suis rendu compte qu'en utilisant le mot personnalité, peut-être c'est un mot en Belgique qui se dit assez facilement. Ici, peut-être je dois un peu expliquer. C'est vrai que c'est le caractère, mais c'est pas tout à fait cela. C'est vraiment quelqu'un qui prend
des choses en main.
C'est plus les responsabilités. Quand je parle de responsabilité, c'est quelqu'un qui ne se cache pas pour demander le ballon dans les bons résultats, mais surtout dans les mauvais résultats, parce que c'est toujours facile. Vous savez, vous avez deux sortes de leaders. Il y a les leaders qui sont leaders quand les choses vont bien, et c'est très facile d'être leader quand les choses vont bien. Moi, j'ai besoin de leaders, de gars qui prennent les responsabilités quand les choses vont mal, parce que c'est à ce moment-là qu'on a besoin d'avoir des joueurs qui demandent le ballon, qui continuent à jouer le football que l'entraîneur a envie d'avoir et ne pas commencer à dégager le ballon bien loin et courir. C'est là que je parle de personnalité, responsabilité sur le terrain. Et ça, pour moi, c'est pas une question d'âge. Parce que ça peut être dans l'éducation que quelqu'un est dans son entourage familial. Mais c'est ça que j'ai surtout besoin, des joueurs qui ne changent pas leur façon de jouer en fonction du résultat.
Olivier Renard, merci beaucoup de cet entretien. Je ne sais pas si vous passez les fêtes ici au Québec, mais je vous en souhaite de très belles avec votre famille, cher camarade. Merci beaucoup.
Merci. Merci beaucoup. Bonne fête à vous aussi.
Et bonne fête à vous. Au revoir. Au plaisir de se reprendre en 2021. Au revoir.
Au revoir.
Olivier Renard, directeur sportif de l'Impact de Montréal.